Bonjour Pierre Guyotat, merci à nouveau de me recevoir chez vous. Nous parlons pour cet entretien de divers textes, interventions, entretiens de 1984 à 2019, qui est paru il y a quelques mois aux éditions Les Belles Lettres. Ce grand et beau recueil, à la fois d'entretiens, beaucoup d'entretiens, et puis des interventions publiques et aussi des textes. Nous tenons donc entre les mains quelque chose qui a un objet, un livre, qui ferait suite à Littérature interdite, qui ferait suite à Vivre, également Explication, et à Humain par hasard. C'est-à-dire que ça pourrait être le cinquième livre où nous avons pas seulement des explications de l'œuvre, mais un accompagnement de l'œuvre par vous-même. Et alors, je suis à nouveau, à cette occasion, à nouveau, je me dis que cette puissance d'énonciation qu'il y a dedans, cette puissance théorique dedans, qu'elle fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que il y a l'œuvre, et puis il y a les explications théoriques que vous fournissez, et ces entretiens notamment. On voit bien à quel point vous avez un discours sur ce que vous faites. Quelque chose, un élément qui m'a au tout début à nouveau captivé, sur lequel j'ai voulu avoir mon. En tout cas, j'ai voulu diriger mon attention, c'est sur le besoin, l'envie et la construction d'une légitimité à faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire ce droit à créer les conditions de légitimer cette activité que vous avez eue, Pierre Guyotat, parce qu'il est toujours étonnant, et ça cesse de m'étonner, qu'il y a ce besoin sans cesse de justifier, de mener cette activité d'imagination.
Ben, à vrai dire, c'est un peu le hasard aussi. Mais ben, on vous demande de ce que vous. Comment dirais-je Naturellement, je n'étais pas du tout porté à faire ça quand je commençais vraiment à écrire. Et surtout, à l'époque du Tombeau d'Éden, j'étais dans une phase très mystique, si je peux dire, de la littérature. Donc expliquer ce que je faisais, j'étais pas, oui, c'était pas, ça jurait un petit peu avec cette sensation que j'avais de d'être dans une situation plutôt donc mystique, si vous voulez. Donc même pas, vous voyez, c'était l'époque où je disais que je n'étais pas écrivain, hein, je le persiste du reste, bien entendu, à le dire. Donc m'expliquer sur ce que je faisais. Non pas dans un état second, mais dans un état qui n'est pas celui, qui n'est pas l'état ordinaire, si vous voulez, ça me paraissait un peu médiocre en quelque sorte. De même, j'avais du mal à, comment dirais-je, comme je l'ai expliqué souvent dans ces entretiens, à concilier cette œuvre avec mon activité, disons, artistique, enfin. Une action artistique, mon transport artistique, si je peux dire, à toute autre activité politique, militante, etc., si vous voulez. Ce qui fait que j'ai très peu parlé publiquement, alors que je suis timide, mais je n'ai pas. Mais comme tous les timides, je suis très téméraire, et il m'est arrivé de parler publiquement sans aucun problème, faire des grandes lectures, c'est important. Mais je pensais que c'était que ce que j'aurais pu dire. De bien sur le plan militant, le plan politique, n'était pas justifié parce que j'écrivais, si vous voulez. Car j'avais conscience que ce que j'écrivais était presque la description ou une sorte de chaos en action, en action poétique, si vous voulez, une sorte de chaos, de désordre, d'injustice criante, etc. Et en même temps, c'est chose donc incompatible avec tout plaidoyer d'une organisation politique, enfin, dans la crise de libération politique. Si voilà. Donc c'est à peu près la même chose, c'est le même sentiment qui m'a curieusement éloigné de tout commentaire pendant un certain temps. Et au fond, j'ai commencé assez tôt à commenter ce que je faisais. Parce que c'est comme ça, parce qu'on vous le demande et que quelquefois je ne refuse pas, pourquoi pas. Je pense aussi que, ayant vu très vite, c'est surtout ça je pense, ayant remarqué très vite que la critique était absolument incompétente à écrire quoi que ce soit sur moi, quoi que ce soit intéressant, si vous voulez, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de le faire moi-même, si vous voulez. Mais je ne l'ai pas forcément fait, je n'ai pas forcément fait de la critique de ce que je fais. J'ai parlé de ce que je faisais autour, de la façon dont ces textes m'arrivaient, en quelque sorte, me parvenaient, si vous voulez. Mais je n'ai pas expliqué ces textes, chacun de ces textes, comme j'aurais voulu qu'un critique, un vrai critique, le fasse, finalement. Je ne l'ai pas fait moi-même, je ne pense pas. Parce qu'on ne me l'a pas demandé, effectivement. Hein. Je l'ai fait, puis par moments je me suis dit que je le faisais trop, ou alors pas assez, que les questions n'étaient pas assez nettes, le questionnement de l'intervieweuse n'était pas assez net, assez précis, mais en quelque sorte ça devenait finalement beaucoup plus qu'une critique ou qu'un accompagnement, une sorte de texte en soi finalement, le texte en soi, le texte parlé en soi. Parce que je crois qu'on reconnaît à peu près ma voix, ma voix réelle, dans ces textes-là, si vous voulez. Ce ne sont pas des réponses calibrées, préparées. Hein. C'est de l'improvisation, toujours. Je ne sais pas du tout, quand je fais une interview, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. C'est jamais préparé. Je ne prépare rien.
Je reconnais, moi, votre voix.
Il faut laisser à toute activité de cet ordre, qu'elle soit du reste vraiment créatrice ou bien simplement commentatrice, il faut laisser l'improvisation agir, dans tout acte. L'improvisation, je ne dis pas la sincérité, je dis l'improvisation. Ça, c'est le propre de tout esprit créateur, bien entendu. Mais il n'y a rien de calibré, je ne prépare pas mes questions. Quelquefois, quand vous écoutez des interviews, des vieux interviews des écrivains d'avant-guerre, par exemple, ou d'après-guerre, ou d'immédiat après-guerre, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'ils disent des textes. Hein, les poètes, ou même les gens les plus réputés, les plus libres, sont des gens qui parlent comme un livre, si vous voulez. Alors, ça a un intérêt très limité. Parce que ce qu'ils disent, on le connaît, on l'a déjà lu dans les livres. Donc moi j'essaie de faire tout à fait autre chose. Enfin, j'essaye, je fais autre chose. Je fais autre chose.
Et ça vient en plus. Effectivement, moi quand je lis les entretiens, oui, je reconnais tout de suite votre voix. D'ailleurs, je le lis, je pense, avec votre, dans mon intérieur d'oreille, votre voix que je connais bien. Et vous improvisez et j'ai l'impression que c'est en plus de l'œuvre, il y a ce que vous en dites.
Oui, qui est improvisé. Cette idée d'improvisation est très importante. Parce que c'est même la question se pose même pour la production des textes, disons des vrais textes, disons. Vous posez la question, je l'ai quelquefois dit, hein, vous posez la question du flux, du fameux flux. Est-ce que vous allez garder le flux de la chose d'imagination, ou bien est-ce que vous allez reconstruire la chose, reconstruire, donc construire. Toujours cette question il faut être le plus fidèle possible au flux en quelque sorte. à l'acte, à ce qui produit, l'acte créateur, si vous voulez. Et c'est un problème, vraiment un problème, que j'ai eu beaucoup pour Progéniture, par exemple. Quand vous avez à réorganiser quelque chose qui est venu naturellement, si vous voulez, ça pose un problème de morale, ça pose un problème d'éthique esthétique, si je peux dire, vous voyez. Absolument. C'est pas uniquement une question de formelle, c'est une question de morale, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut respecter le flux, même si le flux, comme chez tout créateur, est très organisé, hein, par avance, hein, c'est très organisé, les choses ne se font pas. Il n'y a pas de phrase plus bête que dites ce qui vous passe par la tête. C'est une phrase les plus idiotes qu'on puisse dire, mais elle est dite tous les jours, pas tout le monde, si vous voulez. Parce qu'il y a. On ne peut absolument pas dire ce qui passe par la tête. Tout est forcément toujours organisé. Ça sort organisé, ça ne sort pas en désordre. Hein. Ou ça peut sortir en désordre dans le cas vraiment d'une grande activité cérébrale. C'est possible. Il n'empêche que tout sort parfaitement formulé, plus ou moins formulé. Enfin, on comprend plus ou moins bien, bref. Mais c'est... Comment dire ? Donc c'est une question de morale. Est-ce qu'il faut... rester fidèle à ce premier flux, ou bien est-ce qu'il faut le modifier, le remodeler, le réorganiser? Parce qu'à ce moment-là, vous trahissez l'élan initial. Si vous voulez. C'est une question de traîtrise, c'est une question de morale, vraiment. Je l'ai éprouvé, je l'éprouve un peu moins maintenant, parce que maintenant il y a une sorte d'adéquation entre le flux et la construction, la force.
Est-ce que c'est ce problème que vous énoncez là, Pierre Guyotat, qui fait que certains textes dont vous parlez dans divers, c'est-à-dire que dans divers, nous avons dedans aussi des textes non publiés. Je pense bien entendu aux mythiques histoires de Samora Machel, vous savez qu'elles me tiennent particulièrement à cœur, même si je ne les ai jamais lus, de Progéniture 3, oui. Ou de Labyrinthe GN. Oui. Ces trois textes sont inédits, ils sont écrits, et dans les interviews que nous avons dans divers, vous en parlez. Vous parlez bien volontiers d'Histoire de Samora Machel. J'ai écrit un peu toutes les occurrences dedans. C'est peut-être celui pour lequel il y a plus d'occurrences, pour les Histoires de Samora Machel. Or, ces trois textes, Histoire de Samora Machel, Progéniture 3, Labyrinthe GN, ne sont pas publiés de votre fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que personne ne veut les publier, c'est que vous ne les donnez pas à publication. Et tout ce que vous venez de dire depuis 5 minutes, Pierre Guyotat, me fait penser que c'est peut-être là la clé de ce mystère.
Oui, c'est vrai, on peut. C'est vrai, il y a un certain culot à publier des textes sur des œuvres qui ne sont pas connues, ou très peu, par des petits extraits comme ça, etc. C'est curieux, mais j'ai pensé qu'il était nécessaire, parce que ce livre est aussi une tranche de vie, si vous voulez. Donc, je ne pouvais pas manifestement laisser de côté la préparation écrite de ces textes-là, dont j'ai souvent parlé, dont on a parlé, du reste souvent, du reste à ma place, quelquefois, même. Alors qu'ils sont pratiquement pas connus. Et le seront-ils jamais, j'en sais rien du reste. Je ne sais pas. Donc il y a un certain culot, si vous voulez. Mais pourquoi pas? Mais ces textes existent vraiment.
Bien sûr. Là.
Ils sont là, il y en a certains qui sont là, ils sont très gros. Voilà.
Parce que là, faut expliquer. On se tient dans votre salon, Pierre Guyotat, et il y a sur le canapé un gros dossier bleu, et je lis écrit dessus GN. Je me souviens à nos précédents rendez-vous ici, nous étions dans la pièce d'à côté, et je voyais deux grands dossiers trônant en haut d'une bibliothèque, et moi qui me faisais saliver, marqué dessus Histoire de Samora Machel.
Ils sont là. Ils sont là toujours.
Mais vous comprenez bien que pour ceux qui vous lisent, Il y a de la mythologie derrière, c'est-à-dire qu'on sait que ces textes existent, qu'on ne peut pas les lire, nous, que peut-être seront-ils déposés à la Bibliothèque nationale de France,
Ils y sont, bien sûr, ils y sont.
qu'on les liront,
Ils
qu'on
y
les
sont.
lira un jour. Moi qui ai 44 ans, j'ai bon espoir que je puisse y
Oui.
accéder un jour si vous décidez de ne véritablement pas les publier. Mais ce que vous expliquez, Pierre Guyotat, c'est que ces textes-là, peut-être auriez-vous envie de les retoucher pour les publier.
Oui, bien sûr.
Or, y retoucher, ça veut dire vous couper de l'élan initial.
Non, parce que l'élan initial y est, principalement, en gros, voilà. J'ai simplement des choses à. Des petits espaces à combler. Donc je sais à peu près là. Donc je sais à peu près ce qui conviendrait d'y faire. Mais il y a aussi le fait, vous savez, c'est très simple, je ne suis pas le premier à l'éprouver. L'époque n'est pas très favorable à ce genre de. À ce genre de texte, tout simplement. Tout simplement. Vous voyez bien ce qui est. Vous voyez bien ce qui apparaît aujourd'hui comme le comble de la littérature. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'on soit découragé, mais on se dit, mais à quoi bon finalement? À quoi bon publier tout ça, mettre tout ça au point? D'autres pourront le faire, d'autres pourront éventuellement remplir les trous, si je peux dire, après, plus tard, je ne sais pas, pourquoi pas. Je ne sais pas. Si j'ai la force de le faire, je le ferai, bien entendu. C'est pas si colossal que ça, c'est très gros, mais enfin on peut le faire. On peut le faire. Il faudrait que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui m'y aide. Mais en même temps, il y a une sorte de, non pas de découragement, si vous voulez, mais de, pour garder ce qui est considéré comme la littérature aujourd'hui. Ce qu'on demande maintenant, un on qui est très vague. Éditeur, journaliste, parce que la critique n'existe, il n'y a plus de critique, la critique n'existe plus. On ne parle plus des livres, on ne parle que de l'auteur. Un article sert à régler des comptes, à parler de tout et de rien, etc. Mais on ne parle, mais il est très rare qu'on analyse un texte, si vous voulez. La critique elle-même a disparu. La critique elle-même, qui était déjà une presque une aberration, si je puis dire, une aberration de la pensée, n'existe plus. Il n'y en a plus. Il n'y a que du journalisme littéraire, c'est pas pareil. Alors quand vous avez des journalistes, des critiques, des critiques qui répètent depuis 30, 40 ans les mêmes choses sur vous, vous voyez, en les variant un petit peu, en ajoutant un titre ou deux, comme ça, qu'est-ce que vous voulez, vous dites, bon, c'est. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer? Tout simplement. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer une activité qui n'a plus de prestige? Qui n'a plus de prestige. Qui n'a plus de prestige du tout. Qui est totalement privé de son. Qui est totalement privé de son mystère, de sa puissance. C'est ce que j'éprouve en ce moment, hein. Je ne dis pas que c'est. Il y a un tel déploiement de supports, de supports de répétition, de supports de. Qu'on ne sait plus très bien à qui on s'adresse, on ne sait plus très bien. On ne peut même plus s'adresser comme on le faisait autrefois, non pas à un public, à un lectorat, comme on disait. Parce que le lectorat n'était pas considéré. Si vous voulez, les quelques grands écrivains que j'ai connus ne se souciaient absolument pas du lectorat. Mais ils étaient extrêmement sensibles à ce que des lecteurs pouvaient leur dire, quand ils rentraient dans la rue ou ailleurs, etc. Il n'y avait pas du tout cette notion de lectorat que la télévision a créée, etc. Les éditeurs. On tombe-t-il pas, si vous voulez. Donc on ne sait plus à qui, au fond, on s'adresse. Hein. On ne sait plus à qui on s'adresse. Alors on a quelquefois dans la rue, on rencontre des gens qui vous reconnaissent et qui vous disent tout le bien qu'ils pensent de ce que vous faites, si vous voulez, mais est-ce que ça suffit, c'est ça? Alors vous avez évidemment l'élan personnel, l'élan créateur, bien entendu. Bien entendu. Mais à ce moment-là, vous l'avez, vous le faites, vous créez, et puis ma foi, vous gardez la chose pour vous. Ou alors après, eh bien, ça sort non pas de l'oubli, mais ça sort des placards, si vous voulez.
Oui, mais ça change tout. Ça change tout si on prend l'histoire de Samora Machel, les histoires de Samora Machel. Je vais lire la réponse à une question de Donatien Gros. Oui. Voici ce que vous lui répondez. Oui. Samora Machel, il vous pose la question à ce moment-là, qui est celui de votre dépression, on est au début des années 80, oui. Vous avez écrit un texte, Histoire de Samora Machel, oui. Qui est inédit. Quel est son contenu? Vous répondez. Samora Machel était un révolutionnaire africain du Mozambique. C'est aussi le nom donné au putain le plus resplendissant de mon bordel imaginaire de 1979-1980. Je voulais me reposer du livre qui avait demandé beaucoup de concentration. J'avais besoin d'un bordel libre et très fantasmagorique. C'est un texte qui m'est cher. Il est écrit au bord de la catastrophe entre 1980 et 1982. La figure chevelue de Samora Machel m'a accompagné comme un reproche dans ma chute progressive. Ouais. Comprenez que moi, en tant que lecteur, j'ai prostitution. Oui. Ensuite, j'ai le livre. Bien, ouais. Et ensuite, j'ai progéniture. Ouais, comprenez que si il y a Histoire de Samora Machel publiée avant le livre, ou juste après, ça change tout.
Oui, c'est tout à fait, mais ça, je le sais, oui. Je le sais, mais... Peut-être que je ne suis plus provisoirement peut-être dans une situation... Je ne me vois plus du tout une quelconque place dans la littérature française, alors qu'on m'en donne une aujourd'hui, on m'en donne d'une façon une assez resplendissante du reste. Mais moi, je ne le ressens plus, ça. Je ressens plus ce que j'ai ressenti quand j'avais une trentaine d'années. Voilà, j'étais entouré d'amis qui avaient le même âge et qui se voyait dans le courant de la littérature, ce qui était très beau du reste, c'est pas du tout une chose déplorable, c'est très mignon, c'est très joli que des jeunes se voient comme ça déjà dans un beau circuit, c'est très émouvant. J'ai totalement perdu cette chose-là, je ne l'ai plus du tout, mais je ne suis pas le premier auquel ça arrive, hein, je veux dire, peut-être que ça va revenir. Comme depuis un mois et demi, chose terrifiante, je n'écris plus. Je n'arrive plus à tellement... Parce que pour des raisons de santé, je suis fatigué. Mais pour moi, c'est la catastrophe, si vous voulez. Donc, rester un mois et demi sans produire vraiment du texte de fort, complet, si vous voulez, du texte de fiction, si vous voulez, c'est comme si je n'avais rien écrit, si vous voulez. Donc... Publié ou pas, ces textes-là, ça a plus tellement d'importance pour moi pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, peut-être qu'à la saison prochaine, ils en auront, au printemps, peut-être. Mais pour l'instant, comme je ne suis pas en état de produire, si vous voulez, je suis plus, de façon provisoire, hein, bien entendu, parce que ça tape à la porte, si je peux dire. Toutes les figures tapent à la porte pour être prises en compte. Mais moi, je reste obstinément silencieux et je n'ouvre pas, si vous voulez, pour l'instant. Je vais peut-être ouvrir tout à l'heure ou demain, c'est possible. Je sens, du reste, depuis quelques jours que je commence à mettre la main sur le loquet ou sur la clenche, si vous voulez. Mais voilà. Mais tant que c'est là où vous sentez que vous êtes un véritable créateur, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout l'esprit bourgeois, si vous voulez, de la chose amassée. Oui, je l'ai de moins en moins, je n'ai jamais eu, et je n'ai vraiment pas du tout. C'est-à-dire que, pour moi, si je ne produis plus, c'est que je n'ai rien fait. Alors que pour beaucoup de gens, on peut se reposer, et voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'ai totalement oublié ce que j'ai fait. Je n'ai plus du tout, je sais nominalement les textes que j'ai faits, etc. Mais j'en ai plus du tout, la conscience vive, si vous voulez, active, pour moi, ça n'existe plus. Ça reviendra si je retrouve dans quelques jours, dans quelques heures, même le fil, si vous voulez. Mais je ne... Voilà. Il faut une énergie pour tout ça. Il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que... Il faut qu'on oublie soi-même. J'oublie même moi-même. c'est qu'il faut une force physique énorme pour produire une, non pas forcément une œuvre comme Idiotie, encore qu'il en faille beaucoup, mais un texte comme GN, par exemple, un texte en langue, et en langue vraiment, en langue coupée, rythmique, etc. Il faut une énergie énorme, une énergie physique. Vous voyez, une énergie morale, physique, que j'ai un peu perdu, que j'ai un peu perdu en ce moment, si vous voulez. Il faut, parce que là, vous pouvez écrire des textes, vous pouvez écrire vos rêves, par exemple, comme je fais tous les jours, etc. Parce que j'écris tous les jours, quand même. J'écris un journal tous les jours, comme tout le monde, bon, etc. Bref, plus ou moins épais, plus ou moins fourni, plus ou moins, etc., plus ou moins riche. Mais si on veut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire chausser le coturne, si je peux dire, ce que j'appelle moi chausser le coturne, c'est-à-dire faire vraiment de la poésie, là il faut une énergie très grande, il faut une énergie pulmonaire. Réellement, c'est pas du tout du... Je le ressens, ça. Quand on disait ça dans les années 70, on était considéré comme un espèce d'imaginatif un peu fou, mais pas du tout, ça exige... La poésie, la grande poésie exige un souffle réel, un souffle physiquement présent, actif, si vous voulez. Et chaque fois que j'essaie de m'y remettre, j'ai peur. J'ai peur de ce souffle qu'on me demande. Si vous voulez.
Que les figures vous demandent.
Les figures me demandent, elles sont là, elles attendent, des figures nouvelles. Aussi peut-être qu'il y a une certaine lassitude de ces figures aussi. Vous savez, on passe par des crises. Hein. Bah, on passe par des crises. Ça fait 2 ans, 1 an et demi que je me pose des questions sur ce monde-là, sur ce monde que j'ai ébauché pour l'instant. Hein. Voilà, le monde sur le fait que ça n'est qu'humain, si vous voulez, ça reste humain. Moi, je voudrais pouvoir rendre compte d'autre chose que l'être humain. Ou de la présence humaine, ou animale, ou objectale, si vous voulez. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit plus du tout. Alors là, c'est une crise très profonde, évidemment, bien entendu. Je ne suis pas le premier auquel ça arrive. Hein, bien entendu. Encore une fois, je ne suis pas le dernier. Mais c'est très violent. Si vous voulez, c'est plutôt doux, pour l'instant. Mais il faut faire attention à ce que ça ne s'installe pas, si vous voulez. Mais je pense que tout le monde a vécu ça, c'est pas extraordinaire. La limitation à l'humain, à la seule humanité, vous voyez, c'est pas possible, c'est pas tenable toute une vie. Faut pouvoir, intégrer d'autres mondes, d'autres. Or les autres mondes, il faut être savant, faut être très savant, pour le mettre en acte, en fiction et encore en fiction. Est-ce qu'on peut faire de la fiction avec Mars, avec tout ça, etc. Sauf de la science-fiction. Mais moi, je ne peux pas faire de science-fiction du tout. Mais comment rendre palpable l'espace, le temps, toutes ces choses-là, si vous voulez. L'espace, l'immensité des mondes, l'infini, etc. C'est très difficile. Vous pouvez le faire dans une poésie, vous pouvez évoquer ça. Mais être dedans, en rendre compte de l'infini, c'est autre chose. Ça demande des connaissances que je n'ai pas, une énergie que je n'ai pas. Il n'y a pas beaucoup de sexualité là-dedans, aussi. Or la sexualité est quand même une... L'élan sexuel est tout de même un des fondements de ce que j'ai pu écrire. Comme du reste, c'était le fondement de beaucoup d'œuvres. Hein. C'est pas... exceptionnel. Hein. J'ai toujours eu besoin de cet élan-là pour créer autre chose, bien entendu. Mais quand vous voulez rendre compte des astres, etc., des astres, du microscopique, de l'énormité, etc., qu'est-ce que le sexe vient faire là-dedans? Vous ne pouvez pas vous servir de ce levier-là, c'est pas possible. Il faut autre chose, il faut peut-être le levier métaphysique, je ne sais pas très bien. Un levier peut-être mystique, que J'ai toujours un peu eu. Mais vous savez, on ne se refait pas. Nous sommes des êtres humains, nous partons de l'être humain pour faire de l'art. Moi, je voudrais partir d'autre chose. L'être humain ne me suffit pas. Je l'ai beaucoup mis en scène quand même, mais de rien. J'ai même mis en scène quelque chose qui n'est plus tellement de l'ordre humain pur, parce que mes figures sont des figures un peu animales humaines, si vous voulez. Mais voilà, des figures un petit peu transgenres, comme on dirait maintenant, si vous voulez, qui participent un peu de tous les genres, féminin, masculin, on ne sait pas très bien. Donc c'est déjà une sortie de l'humain, ça déjà, l'humain ordinaire. Mais c'est pas suffisant. Je voudrais aller plus loin, si vous voulez. Sortir même de la forme humaine. Et pour ça, il faut une énergie et une science que je n'ai pas.
Vous imaginez inventer des figures extraterrestres qui viennent d'autres planètes?
Non, je ne demande pas des figures. Sortir vraiment de la morphologie des figures. Pas des figures, mais des états, des lieux, des souffles, des... Oui.
Mais alors comment faire langue avec?
Ah, voilà, c'est ça. Tout le problème est là. Tout le problème est là. Vous avez touché ce qu'il faut toucher.
Parce que s'il n'y a pas de figure...
Alors là, vous avez... Non, il n'y a pas de figure. Alors là, vous entrez peut-être dans un domaine qui a été celui des mystiques, finalement. Certains mystiques. Voilà. Mais je ne me sens pas l'âme d'un mystique, moi. Je peux apparaître comme tel pour pas mal de gens, mais personnellement, je ne me sens pas capable d'une telle ascèse, pas du tout. Mais ça serait la solution, effectivement.
Et on serait complètement hors science-fiction, mais néanmoins, ça ferait une création qui incorporerait tous les éléments, l'univers, le temps, sans figure.
Oui, oui, oui. Mais ça demande un retournement complet.
C'est l'ambition la plus totale.
Hein?
C'est l'ambition la plus totale.
L'ambition, oui, oui. Mais ça, je m'y attendais, si vous voulez. Je m'y attendais depuis longtemps. Je pense que beaucoup d'artistes l'ont ressenti à la fin de leur vie, ou disons, dans la dernière parcours, si vous voulez. Pourquoi une sorte de sortir de l'humain, sortir de la seule forme humaine, des problèmes humains, de l'affect humain, de la religion humaine, de la politique humaine, de l'organisation humaine, etc. Toujours. Sortir de ça, sortir de cet engluement dans l'humain. Comment faire ?
Sans la sexualité.
Oui, un peu sans la sexualité. Alors, trouver autre chose, trouver... Alors, pas mal de saints l'ont trouvé, de saints ou de grands artistes l'ont trouvé dans Dieu, dans l'élan vers Dieu. Un élan sexuel, quand même, malgré tout. Hein. C'est possible. Mais Dieu est une invention de l'homme. Donc, on reste encore dans l'humain, si vous voulez.
Même avec Dieu, on reste dans l'humain.
On reste dans l'humain, bien entendu, bien entendu, bien entendu. C'est même ce qui fait la limite. C'est ce qui fait la limite de toute croyance. C'est qu'elle est, la croyance chrétienne surtout, c'est qu'elle est vraiment humaine. Elle est vraiment rien qu'humaine. Quand vous sortez de l'homme, qu'est-ce que le christianisme vous dit? Rien, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est complètement obsolète. Ça ne vaut plus rien. Quand vous sortez de l'humain, vous sortez même de l'animal avec Saint François, par exemple. Saint François, qui est un des plus grands saints qui ait jamais existé, qui lui a tout intégré, les astres, les animaux, les humains, presque d'une façon égale, ce qui est extraordinaire. C'est un des rares qui l'ait fait, quand même, qui a osé le faire. Osé le faire. Vous sortez de là, voilà, Saint François, il avait ça, puis il est mort.
Parce que si on imagine ce que vous êtes en train de dénoncer, ça serait de l'abstraction, en fait. On serait plus dans le concret de l'action.
Oui, oui.
Et ça aussi, oui. Si on prend sexualité, langue, mais la langue, elle est là pour activer des figures. Oui. Elle fait faire de l'action aux figures, puisqu'on est toujours dans un temps présent dans vos textes. C'est le présent et des figures qui énoncent par cette langue qui annonce ce qu'elles sont en train de faire au temps présent. Et là, il n'y aurait pas ça.
Non. Non, il faut que l'homme disparaisse complètement. La forme humaine disparaisse complètement. La forme humaine et ses problèmes, ses nécessités, etc. Complètement. Complètement. Ce qui est avec l'homme, à savoir les animaux, les plantes, etc. Tout ça est humain. Tout ça a été contaminé par l'humain. Les arbres, les plantes, les roches, tout ça, l'eau a été contaminée par l'humain. Contaminée, je dis pas écologiquement, hein. Contaminée par l'humain. Oui. Voilà. C'est intéressant, ce discours peut être une contribution à l'écologie, d'une certaine façon, dans la mesure où l'homme est, comme on entend toute la journée à la radio, partout, que l'homme est en train de détruire sa planète, donc de se détruire lui-même, en quelque sorte, avec les animaux, les plantes, etc., eh bien peut-être que je suis en avance, sans le savoir. Finalement.
Oui, ça me fait penser, à un moment, vous parlez de l'ethnologie, cet intérêt, et comme quoi cet intérêt pour l'ethnologie était un moment important de votre formation. Et dans l'ethnologie actuelle, les anthropologies actuelles, je pense à quelqu'un comme Philippe Descola, par exemple, oui. Ce penseur-là, ce que vous venez de dire, on est là-dedans, complètement là-dedans. Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est tout ce qui nous entoure, effectivement, c'est aussi humain, c'est aussi des modes de relation liés à nous.
Bien sûr, tout à fait. Il a raison, bien entendu. Tout est touché par l'humain. L'humain a presque tout touché maintenant. De ce qui nous est accessible à l'œil, à l'œil nu. Oui. Mais je pense que je ne suis pas le premier du tout à ressentir ça. D'autres l'ont ressenti avec leur connaissance de l'époque, vous savez. Cette sorte de lassitude de l'humain, c'est pas... C'est une chose absolument... C'est une chose vieille comme le monde. Il y a des gens qui l'ont ressenti déjà à 20 ans ou à 30 ans. Hein? Moi, j'ai mis du temps à le ressentir. Encore que j'ai eu des périodes où j'étais très engagé politiquement, où effectivement, l'humain ne me paraissait pas du tout l'alpha et l'oméga de la pensée ou même de la pensée politique. Si vous voulez. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas, absolument pas. Il y a même dans Tombeau déjà des moments un peu de flottement là-dessus.
Parce qu'il faut imaginer qu'avec tous les moyens expressifs que vous avez développés depuis Tombeau pour 500 000 soldats, vous seriez peut-être le mieux à même de réaliser des tentatives en ce sens-là.
Peut-être, oui. Il y a aussi une chose qui joue, c'est que l'âge joue aussi dans la mesure où on aurait aimé que ça ne se produise pas, mais c'est comme ça. L'âge fait que vous êtes, si vous êtes très conscient, vous rendez compte, moi je suis conscient politiquement depuis quasiment 75 ans, si vous voulez. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et vous finissez par vous lasser de ces disputes sans fin, qui se répètent, de ces à peu près, de ces approximations perpétuelles, de ces inaboutissements, de ces criailleries perpétuelles des uns contre les autres, les uns envers les autres, des mensonges plus ou moins obligatoires, si je peux dire, si vous voulez, Mais ce qui est la sens, c'est la répétition. que ça se répète et à des milliards d'exemplaires maintenant. Parce que la population humaine grandit. Et vous pensez, parce que un vrai poète se doit de penser l'humanité en 5 secondes, si vous voulez. Vous comprenez ? Vous pensez toute l'humanité, les 5 milliards, je ne sais combien, on est 5 ou 6 milliards d'hommes en 5 secondes, de voir tout ça dans une seule perspective. Maintenant, vous êtes obligé, c'est très compliqué. Si vous êtes obligé de. Si vous avez du cœur comme j'en ai, vous pensez à la vie de chaque individu, les raisons qui les poussent à faire le bien, les raisons qui les poussent à faire le mal, etc. Tout ça devient un chaos effarant, effrayant à assumer, à vivre même poétiquement. C'est insupportable.
Oui, parce que vous avez une attention dans le détail, dans la moindre minutie, à tous, aux humains, mais à toutes les autres entités.
Oui, oui.
J'imagine bien que ça soit épuisant.
Oui, quand j'ai un premier mouvement sur un individu croisé dans la rue ou rencontré, etc., un premier mouvement négatif, si vous voulez, je mets quelques secondes à le regretter. Parce que chacun a ses raisons, vous savez, comme on dit dans cette fameuse phrase de la règle du jeu, terrifiante, chacun a ses raisons. C'est-à-dire que chacun a sa vie, et quelle solitude que ces corps humains, comme des musets dans leurs asiaux, etc., etc. Chacun a des raisons de faire ce qu'il fait, si vous voulez. C'est terrifiant. Si on veut sortir de la petite morale ordinaire, bon, qui nous est vaguement enseignée, hein, on tombe là-dessus. Et vous savez, pendant toute la vie, on pense que voilà qu'on a accepté que les autres soient les autres, que l'autre soit l'autre. C'est beaucoup plus tard qu'on le vit vraiment. Et cette espèce de séparation entre vous et l'autre est une chose très dure, au fond, à admettre. C'est une réalité qu'on vous enseigne, hein, qu'on vous rabâche tout le temps, que vous répétez vous-même comme une sorte de truc habituel, etc. Et puis quand vous commencez à le réaliser vraiment, c'est très douloureux, très difficile. On aimerait une humanité unie, presque, comment dire. C'est toujours ce même rêve, et c'est un rêve politique aussi. Politique. Beaucoup d'engagements politiques que nous avons eus, autour des 30 ans par exemple, qu'on reproche beaucoup à cette génération, et c'était des réflexes et des besoins, des envies. Tout à fait belle, tout à fait estimable. C'était pour combler ce vide qu'il y a entre l'un et l'autre, si vous voulez, l'un et l'autre, entre moi et l'autre, entre les autres entre eux, etc. Un vide qui est un vide pas seulement, qui est le fait l'autre est l'autre parce qu'il a une autre vie, une autre biographie, une autre parenté, une autre origine. Une autre origine génétique, etc., une autre, etc. Ouais. Ça, c'est tellement pénible à penser, tellement insupportable à penser. C'est pour ça qu'au fond, les grandes doctrines meurtrières du XXe siècle sont les doctrines qui ont massifié tout ça, qui ont massifié l'humanité en classe, encore la classe, c'était pas ce qu'il y a de pire, en race, c'était bien pire. On a essayé pendant un certain temps, dans les années 70-80, d'essayer d'expliquer que la séparation en classe est la même chose que la séparation en race. Moi, je pense que non. Je pense que non. Par exemple, toute la terreur communiste n'a pas été une terreur. Tout le monde a été touché. L'intérêt stalinien ou maoïste. C'est pas seulement les possédants. Tout le monde a été touché. Donc, la question de la classe, au fond, joue très peu. chez Staline et chez Mao. Elle joue peu. Il y a simplement les ennemis du régime et ceux qui le soutiennent. Même ceux qui le soutiennent sont suspects. Alors bon. Donc la classe, tandis que la race, chez Hitler, c'est capital. C'est vraiment une séparation totale, totale, systématique, etc. Les gens ont été tués en fonction de leur origine ethnique, etc. Ça, c'est terrifiant. C'est plus terrifiant. Le reste, c'est la tyrannie ordinaire, terrifiante, mais ordinaire, qui peut faire plus de mal, hein, qui fait plus de morts. Mais c'est pas une question de nombre de morts. Je pense que là, dire que le... Comment dirais-je que le... La massification en classe a été aussi désastreuse que la massification en race. Je pense que c'est une erreur. Parce que autant les massificateurs de la race en race ont accompli leur besogne, race par race, race après race, hein, race pour eux, enfin prétendu, race entre guillemets, hein, autant les staliniens, les maoïstes, ont agi non pas tellement comme ça, ont agi en forme de tyrannie finalement, en termes de tyrannie ordinaire, en termes de suspicion. On n'a pas, alors au début, oui, le bolchevisme a brisé des castes, des castes qui n'étaient pas si nombreuses que ça en Russie. C'était pas colossal quand même. Hein. Alors il y a eu les classes, enfin. Est-ce qu'on peut considérer les koulaks comme une classe, par exemple? Les koulaks ont été décimés. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une classe, voilà, une classe où on entendait Marx, par exemple? Je ne sais pas. C'était une classe assez nouvelle, en plus. Il faut se garder de faire comme ça des parallèles, de tout mélanger, de tout...
Mais... Cela, de toute façon, vous est insupportable parce que vous ne pensez pas par généralité, donc par masse. Oui. Vous ne pensez que par particularité. Oui. Et c'est cela aussi qui fait que j'imagine comprendre votre épuisement, ce dont vous parlez, oui. Parce que vous pensez par particularité. Ça me fait penser au philosophe Michel Serres, par exemple. Ça me fait penser au philosophe Michel Serres qui disait que, à notre époque, nous pouvons penser par particularité et pas par généralité parce que nous avons les moyens de penser par particularité. Oui. Mais vous... Ça fait des dizaines d'années que par votre œuvre, vous créez, vous pensez par particularité et pas du tout par généralité.
Pas du tout, non. Parce que vous savez, quand vous pensez par masse, vous pensez qu'au fond, les hommes se ressemblent, sont pareils. Donc vous pouvez en tuer un, ça ne porte à rien. Un autre arrivera qui sera le même. Vous voyez ? Vous tuez par exemple un aristocrate, éventuellement, si vous tuez un koulak par exemple, mais il y en aura un autre après, etc. Quand vous commencez à penser chrétiennement, c'est-à-dire chrétiennement ou même bouddhistement, bref, vous pensez à chaque individu en particulier, là chaque individu devient irremplaçable, si vous voulez. Et c'est cette notion d'irremplaçabilité qui a été oubliée, et qui a été oubliée, enfin qui a été vraiment totalement négligée, totalement haïe, totalement rejetée, par Hitler et par Staline. C'est évident. Dès que vous pensez que l'homme est irremplaçable, vous ne le tuez pas, forcément. Si vous pensez qu'à chaque homme que vous tuez, vous en avez un autre qui arrive, qui est le même, vous pouvez tuer allègrement. C'est pas un problème. C'est l'idée de masse, je crois, beaucoup plus que de classe, de masse, qui a créé un... C'est terrifiant, terrifiant ça. Et ça a correspondu à la naissance des dictateurs aussi. Il faut aussi considérer aussi une chose à laquelle je pense souvent, c'est que les deux grandes dictatures du XXe siècle, qui ont fait un nombre considérable de morts et qui ont éreinté la conscience humaine, vraiment, complètement éreinté, les deux ont éreinté dans des... proportions un peu différentes, etc. Bref, comment dire, sont des créations d'un monde d'où Dieu avait disparu. On peut même dire Dieu et les rois avaient disparu. on a pensé au 19e siècle que l'homme pouvait suffire à lui-même, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je vois que ça correspond à peu près. Même si Staline et Hitler sont des hommes qui sont nés religieux, qui sont nés de milieux religieux, hein, Hitler, encore à la fin de sa vie, dans ses derniers discours, terrifiants, invoquait encore la providence, ce que ne faisait plus Staline, effectivement. Hitler le faisait encore, la providence. Mais Dieu n'était plus là. Et Dieu a été considérablement absent aussi de tout ça, hein, d'une certaine façon. C'est pour ça que le reproche qui est fait au pape Pie XII, par exemple, de ne pas être, pour les gens, pour certains, assez intervenu en faveur des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, est un reproche très intéressant, au fond. Qu'ils soient justifiés ou pas, peu importe. Il est intéressant, ça veut dire que les gens sont en recherche de ça. C'est-à-dire que le représentant du Christ, le représentant de Dieu, parce que le Christ c'est Dieu, dans la religion chrétienne, le représentant de Dieu se serait tu en quelque sorte. Dieu se serait tu. Parce que Dieu était déjà mort.
Ça me fait penser à certains passages.
Je pense que c'est très important ça. C'est pour ça aussi que, comment dirais-je, ces dictateurs ont pu agir en toute liberté. Ils n'ont eu personne. C'est, je pense, une des premières fois que ça se passe dans l'histoire du monde, qu'il n'y a personne à côté du dictateur pour lui dire qu'il fait des crimes. Seule la première femme de Staline, je crois Svetlana, je crois, ou la première, lui a fait des reproches. On le sait par sa fille. Mais jamais personne n'a reproché quoi que ce soit Hitler. On ne sait rien là-dessus. Vous vous rendez compte? Un homme qui déjà dans les années 30 commence déjà son travail effroyable. Et il y a quelques, évidemment, il y a des gens qui se lèvent, des pasteurs, des évêques. Mais enfin, il n'y a pas. Personne ne va le voir pour l'affronter. Comme ça se faisait un peu autrefois. C'est vrai.
Vous m'aviez déjà effectivement, Pierre, parlé de conjurer le monstre. Et j'ai réécouté avant de venir tous les entretiens que nous avons eus ensemble. Et pendant 10 minutes, effectivement, vous parliez à un moment donné, c'était en 2005, à propos de progéniture, de conjurer le monstre. Aller voir le monstre pour essayer de l'apaiser. Or, j'ai trouvé dans divers, notamment ce passage, c'était à nouveau Donatien Gros qui vous posait des questions. J'ai trouvé que les discussions que vous avez eues avec Donatien Gros, qui sont dans divers, justement, il y a des choses que vous n'avez pas encore dites. Et notamment, quelque chose qui m'intéresse vivement, c'est l'utilisation que pourrait faire le futur de votre œuvre. Et ça va avec conjurer le monstre, parce que conjurer le monstre, c'est toujours une question de futur. On imagine que cette personne va être monstrueuse, comme Hitler, et quelqu'un vient, conscient, et qui va essayer d'apaiser le monstre. Et ça, vous m'en aviez longuement parlé. Vous répondez à Donatien Gros ainsi. Je vois cette œuvre, la mienne, comme une espèce de garantie contre un avenir possible. Je pense que cette façon d'installer des non-étants et d'en faire des figures assez glorieuses, de belles figures, et aussi une façon de revenir sur ce qui s'est passé, d'adoucir ce qui va venir par la main, une façon de tenir les victimes futures par l'épaule. Cette phrase, une façon de tenir les victimes futures par l'épaule.
Oui, parce qu'on peut s'attendre à tout. On a eu le maximum. Le maximum s'est produit entre quand j'avais entre 40 et 45, moi. Je suis contemporain du maximum. Hein? Donc, on peut penser qu'avec les moyens actuels, on peut aller plus loin. Les moyens de désinformation, les moyens de soumission, les moyens de rassemblement humain, etc. On peut faire mieux. On peut faire plus. On peut asservir, on peut beaucoup asservir aussi. Non, c'est... Comment dire... En tout cas, moi, là-dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne le sais pas. Je ne le saurai jamais, de toute façon, parce que... Je ne sais pas. Quand j'écris, j'ai une certaine idée de ce que ça peut devenir. Quand je n'écris plus, je n'ai plus de pensée là-dessus. Plus rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce dont le futur sera fait culturellement parlant, si vous voulez. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, hormis quelques petits îlots comme ça, de vraie littérature ou de vrai art, je ne vois pas très bien ce que... Ce n'est pas une façon d'idéaliser le passé, pas du tout. Moi, j'ai connu les périodes où il y avait encore des vieux surréalistes, des vieux machins. Je voyais le début du nouveau roman, etc. Debussy, le début du structuralisme, tout ça, etc. Après, bon, le grand effondrement hein, du début de la fin des années 70 déjà. Mais... Je vois pas du tout ce que. Je vois pas ce dont le monde sera fait, j'en sais rien. Quelquefois j'y pense, je le prévois, mais. Donc je ne sais pas du tout ce que deviendront. D'abord, on a aussi. Il y a une chose qui domine tout ça. C'est que vous savez une chose que peut-être ne savaient pas encore les gens du 19e siècle, qui écrivaient, qui produisaient des œuvres, qui étaient considérés comme des dieux. Hein. Les grands artistes, etc. Bon. Ah, oui, c'était des dieux extraordinaires. Bon. Mais maintenant, quand vous savez que la Terre est fragile, la planète est fragile, et la toujours été, hein, le monde est fragile, quand tout ça grandit en vous, vous savez très bien que tout ce que l'homme a fait peut disparaître. Même tout ce qui est numérisé peut disparaître. Même ce qui est numérisé peut disparaître. Tout à fait. Dans un énorme cataclysme qui casse tout, qui bouleverse tout. Ce qu'il y a de beau dans la jeunesse, quand on crée, bien entendu, c'est qu'on pense que tout ça est immortel, si vous voulez. Est immortel dans le temps, que ça n'aura pas de fin, que vous serez toujours... qu'un tel, auteur, grand auteur sera toujours un grand auteur dans tel domaine, dans telle lignée. Tout ça est magnifique, très beau. Vous êtes sûr que tout ça. Et puis quand vous grandissez et que le monde se fragilise avec vous aussi, parce qu'il se fragilise tout de même, hein, qu'est-ce que c'est pas pour rien qu'on conquiert d'autres mondes en ce moment tout de même. Et qu'on le fait tout de même d'une façon assez urgente. Hein. Mars, la Lune, tout ça, etc., c'est quand même pas rien. C'est des choses dont il faut voir la signification. Les hommes n'y vont pas seulement par curiosité ou par défi technologique. Ils y vont parce que peut-être, il sera peut-être nécessaire d'y aller, ou quelques exemplaires d'humanité sont peut-être contraints d'y aller avec des scaphandres, etc. Bref, on peut imaginer. Ça, c'est pas un problème, les scaphandres. C'est pas grand-chose. On peut y pallier par toutes sortes de... d'un plan organique et tout. Mais c'est comme une reconnaissance de refuge futur, si vous voulez. De refuge, pas de refuge de la totalité, mais de refuge, disons, de quelques exemplaires d'humanité. Déjà transformés, augmentés. Déjà. Mais ça, bon, je... Mais savoir que de savoir vraiment, savoir qu'il n'y a rien d'absolu, qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien d'immortel, rien de. Rien d'impérissable, comme on dit, chef-d'œuvre impérissable. Qu'est-ce qu'on en sait? Tout peut disparaître. Hein. Tout peut disparaître. Et l'homme avec.
Mais est-ce que.
C'est l'homme qui fait vivre l'art. Si l'homme disparaît, il n'y aura plus rien.
Mais est-ce que vos textes ne pourrait pas non plus être un moyen de prémunir d'un futur monstre, d'un prémunir d'un futur inédit qu'on n'aurait pas imaginé.
Oui.
Parce que si on, quand on lit Progéniture, oui, on a affaire à un monde, oui, à une puissance d'un monde qui est là, au présent,
oui,
des figures, oui, qui font de l'action par la langue qu'elles emploient, et par la langue elles font de l'action, on est dans le présent. Il n'y a pas de temps de futur dans Progéniture.
Oui.
Mais on peut imaginer qu'un texte comme ceci puisse nous prémunir au futur d'actions inédites qu'on n'imagine pas encore. Par exemple, on peut constater combien la Shoah, le camp d'extermination, oui, combien Auschwitz,
oui,
n'a jamais été, ou la Shoah par balle,
oui,
à l'Est, n'a jamais été imaginée par la fiction. La littérature des années 1910, 1920, 1930, oui, n'a pas imaginé Auschwitz, n'a pas imaginé la Shoah par balle. Et si elle l'avait imaginé, oui, s'il y avait eu des créateurs qui avaient imaginé cela, est-ce que ça aurait pu se produire? Voilà comment on pourrait peut-être imaginer quel effet produirait un texte comme Progéniture.
Moi, je pense que quand même, il y a des œuvres qui sont... il y a des œuvres prémonitoires qui annoncent non pas la Shoah dans sa matérialité, hein, mais qui annoncent peut-être l'état mental résultant de ce massacre, si vous voulez. L'état mental des victimes encore vivantes, ou même des bourreaux, ou des gens autour concernés, comme moi ou comme d'autres. Hein. L'état mental, Kafka, c'est tout de même prémonitoire, Schoenberg est très prémonitoire, ce sont des gens d'origine juive, comme par hasard, vous voyez. C'est pas pour rien que cette terreur qui vient, ce vide, qui vient. C'est la tonalité, la tonalité. C'est extraordinaire quand même. La tonalité était inventée, enfin progressivement mise au point au début de ce siècle terrible. La tonalité qui est la tonalité cassée, brisée, remplacée par des règles évidemment encore plus strictes d'une certaine façon, vous voyez. Et puis Kafka, l'angoisse, l'inquiétude, le vide, même le Kafka de la Métamorphose, par exemple. Texte extraordinaire, le plus beau qu'on ait jamais écrit. Cet homme qui se transforme en cloporte. Donc cloporte, c'est ça.
Oui, une sorte d'insecte, de cafard. On ne sait pas très très bien, ça dépend des traductions aussi.
On ne sait pas très bien, oui, peu importe. En tout cas, voilà, qui devient... C'est extraordinaire. Bah, si c'est pas une préfiguration... Vous vous rendez compte?
Parce que la fin, notamment de la Métamorphose, il crève. Je crois que c'est ce terme-là qui est utilisé, avec sa famille qui est derrière la porte. Oui. Et puis il y a la bonne qui vient en disant c'est pas grave, je vais vous en débarrasser. Oui. Et elle en débarrasse par un coup de balayette. Oui. Effectivement, ça préfigure l'animalisation de l'homme au point de tu n'es plus qu'un animal, et donc tu n'es plus qu'une vermine, et donc. On peut te tuer parce que tu es plus un humain.
Un animal malfaisant.
C'est ça. Ouais.
Et même un animal répugnant. Tu es pas un cheval ou un lion. Tu es un cloporte. C'est exactement comme ça que les nazis traitaient les juifs Auschwitz et ailleurs. Hein. Même dans la terminologie. Vous savez, ils disaient pièce, ils disaient Stuck. Ils disaient même pas être humain. Là, ça va même encore plus loin.
Et alors les figures de Progéniture au futur, on peut peut-être imaginer qu'elles prémunissent.
Oui, je ne suis pas en état de parler parce que je les vois, bien entendu, je les vois. Elles sont prémonitoires de quelque chose puisque je les ai écrites. Elles sont là. Elles sont là bien vivantes, je les ai prononcées même quand j'ai fait des lectures publiques, hein, avec leur nourriture, etc., leur alimentation, etc. Oui, j'ai fait ça, oui, c'est vrai, je le reconnais. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas C'est sûrement tout homme est prémonitoire de quelque chose, bien entendu. De quoi je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je vois plutôt le monde, moi, comme la fin du monde comme une fin extrêmement technologique. Si vous voulez. Pas du tout auschwitzienne, si je puis dire. Pas du tout, cloporte, pas du tout comme ça. Pas du tout. Je vois comme quelque chose d'extrêmement technologique. Des masses comme ça, conduites par un. Vous voyez, des masses avec des puces dans les. Des puces dans le, partout. Je vois des figures augmentées. Là, dans Progéniture, elles sont plutôt désaugmentées, d'une certaine façon, si je crois. Il me semble. Est-ce que c'est. Progéniture, je voudrais plutôt que c'est au fond une image très, très poussée, très outrée, bien entendu, de ce qu'est devenu l'homme ancien, d'une certaine façon. Qui existe de moins en moins. L'homme misérable classique, si vous voulez. L'homme du Bangladesh ou du. De Haïti, vous voyez, des égouts à ciel ouvert dans les rues, etc. C'est ça, c'est au fond ça. C'est au fond ce monde-là, c'est plutôt le monde ancien. Le monde ancien, évidemment, exagéré. Vous voyez, je suis plutôt proustien qu'autre chose, finalement. C'est un monde ancien, un monde qu'on a connu. Le monde de la crasse, le monde de la misère, le monde de l'esclavage, le monde, non pas du racket, mais le monde voilà, d'un esclavage, disons, presque de bon aloi, si je peux dire, presque, si vous voulez. Et je ne pense pas du tout que enfin, tel que le monde se présente aujourd'hui, je ne vois pas sa fin comme ça. Si vous voulez. Je vois sa fin comme une fin très high-tech, au fond. High-tech. La fin du monde, l'homme devenu je sais pas, peut-être robotisé, j'en sais rien. Mais moi, c'est à mon avis, je l'ai dit du reste, c'est plutôt le monde ancien. Le monde tel que je l'ai connu quand j'étais enfant, disons. Tel que je l'ai connu, enfin tel que j'en ai vu des images quand j'étais enfant. Dans les courriers ouvrières, tout ça, etc. On était loin du compte, hein, mais. Ça pouvait devenir ça. Non, c'est un monde ancien. Mais qui dit que ça ne peut pas se reproduire aussi? Une catastrophe générale de l'humanité peut produire progressivement un ressurgissement de l'humanité et un ressurgissement absolument archaïque, complètement archaïque, où la progéniture serait effectivement. Une sorte de préfiguration. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, je vois plutôt les choses comme des choses très propres.
Et cela, avec ce que vous venez de dire il y a une demi-heure sur depuis un an et demi, vous réfléchissez à pourquoi pas. Essayer d'imaginer, de créer en dehors de l'humain, est-ce que ça pourrait pas, je cherche en même temps que vous, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose où la technologie serait tellement présente qu'il n'y aurait plus l'homme, il n'y aurait plus besoin d'homme, ça serait la technologie?
Mais là, sur le plan politique, c'est pas très excitant. Voilà le problème. Oui, je reste quand même un homme de mon temps, si vous voulez. J'ai besoin du corps, j'ai besoin de ces formes qui sont des formes finalement assez ordinaires, je dis pas médiocres, mais enfin. Qui sont considérées comme le fin du fin de la perfection divine. C'est drôle.
Parce que c'est quelque chose, ces technologies-là, auxquelles vous pouvez penser, comme vous en avez parlé, mais qui ne fait pas langue et du coup qui n'arrive pas à être... vous n'arrivez peut-être pas à faire image ou imaginaire avec ?
Oui, je peux pas, je peux pas. Je vous dis, il faut une science que je n'ai pas, connaissant des choses que je n'ai pas. Et puis je suis habitué à un certain monde. Hein. Je me tourne au monde dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai été enfant, et que je reproduis, tant bien que mal. Donc j'exagère les contours, les formes, les couleurs, etc. Hein. Ou la puanteur. Mais le... pas de... mais l'homme reste un matériau intéressant, tout de même, malgré tout. Intéressant, mais répétitif, pénible. Quand vous pensez que... il faut penser que pour être bien, il faut penser chaque être. Ça en fait beaucoup, d'un seul coup. Chaque être humain existant. Vous pensez les enfants, les gens, les adultes, les vieillards. Vous pensez les mourants, ceux qui sortent du vent de leur mère, pour l'instant encore, du vent de leur mère. Il y a ça aussi. Vous pensez aussi que chaque parole d'un être humain est doublée d'une arrière-parole, d'une arrière-pensée. Quand vous pensez aux arrière-pensées des gens, c'est terrifiant. Oui. Mais ça, c'est le rôle du poète, si vous voulez. C'est pour ça que c'est un rôle épuisant. Et que malgré tout, tout ce qu'on dit, on se moque souvent du poète, etc., de son tourment, etc. Mais c'est ça le tourment du poète, c'est que le poète est l'homme qui pense tout à la fois. Qui pense en même temps l'astre, le cloporte et la main de l'homme, si vous voulez, sa bouche, en même temps. Bon, tout ça en même temps. Ça fait beaucoup de choses à penser en même temps, si vous voulez. Et il faut penser en même temps à l'arrière-pensée de chaque être humain, l'arrière-parole de chaque parole. C'est terrible. C'est trop. C'est trop. On peut effectivement mourir ou de ça, de cet excès de... c'est un excès de conscience, d'une certaine façon. Mais à quoi bon faire de la poésie si c'est pas pour faire ça ? Bien entendu. Mais là, vous pouvez le faire parce que vous avez affaire à des êtres humains. Comme vous connaissez vous-même, vous savez à peu près ce que pensent les gens, si vous voulez, ce que pensent le flux intérieur, la vie intérieure des gens. Qui est un chaos extraordinaire quand on y pense. Ça n'a pas été tellement pensé, du reste, ça. Vous êtes dans une rame de métro et vous regardez les gens, vous regardez la tête, évidemment, parce que c'est là qu'en principe les choses se passent, et vous imaginez ce qu'ils pensent, vous imaginez ce qu'ils sont en train de penser, à la vitesse à laquelle ils la pensent. Ils pensent tout ça. C'est vertigineux. C'est formidable, mais c'est vertigineux. Ça vous enlève toute idée d'agressivité ou de massification.
Parce qu'en plus, on peut, ou je vous imagine, en train de chercher un imaginaire chez ces personnes. Imaginons, vous prenez le métro, Pierre Guyotin, on vous croise dans la rue. Oui. On va voir un monsieur... je sais que vous êtes né en 1940, donc un monsieur de 79 ans qui marche dans la rue ou qu'on croise dans le métro, comme plein de personnes, comme plein de Parisiens peuvent vous croiser. On peut imaginer vos arrière-pensées. Mais si on sait que vous êtes Pierre Guyotat, on peut aussi vous penser avec votre imaginaire. Et j'imagine aussi que, parce que on va revenir au début de l'entretien sur cette légitimité. Vous militez aussi grandement pour que chacun ait le droit de faire, que chacun ait le droit d'imaginer. Oui. C'est quelque chose que vous avez combattu déjà pour vous, que vous avez ressenti durement. J'ai le droit d'utiliser mon imaginaire, j'ai le droit d'écrire, et j'ai le droit de produire et de mener cette activité, d'en faire ma vie. Et cela, c'est très conscient chez vous. Vous le souhaitez pour tout le monde, cela. Vous le souhaitez pour chacun d'entre nous. Si bien que lorsque vous croisez des personnes, que vous allez regarder un peu attentivement dans la rue, vous, Pierre Guyotat, je vous imagine en train de penser à leur imaginaire. C'est quoi leur imaginaire? Parce que si je vous croise dans la rue, je vous reconnaîtrai et je vais me dire, il y a l'imaginaire de Pierre Guyotat avec votre corps, dans votre tête.
Oui. C'est pour ça qu'il est particulièrement douloureux de suivre des émissions de télé ou de radio, par exemple, où les gens, quand il y a des manifestations, les gilets jaunes, par exemple, vous avez les journalistes qui posent des questions aux gilets jaunes. Et c'est des questions misérables. Et à des questions misérables, on répond par des réponses misérables, évidemment, qui sont totalement... qui sont une espèce de couverture pitoyable de ce que les gens pensent réellement, éprouvent réellement. Vous voyez ? Les journalistes s'arrêteraient un petit peu avec leur micro, laisseraient la personne penser, réfléchir un petit peu. La personne dirait des choses infiniment différentes et infiniment plus intéressantes, si vous voulez. Ils ne le font pas. Ils cherchent la première couche. Et c'est une couche de masse. Les gens disent Macron démission, etc. Voilà, bon. C'est la première couche de masse. C'est ce que la masse crie. C'est pour ça qu'une manifestation, c'est très ambigu, au fond. Très ambigu. C'est la transformation de milliers de pensées différentes, d'imaginations différentes, même si les gens vivent dans des conditions apparemment semblables. Ils pensent et ils imaginent différemment, si vous voulez. Et donc c'est l'agrégat de tout ça dans des slogans. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Ça ne sert à rien en plus. Les slogans ne servent à rien du tout. Ils ne font pas avancer là, ils ne font pas avancer la machine. Ils n'en savent rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en tout cas. C'est désastreux l'usage qu'on fait de toutes ces imaginations en marche, si je peux dire. En marche dans les manifestations. Les gens pourraient dire des choses épatantes, voyez. Au lieu de quoi, on leur souffle presque, il faut dire, pour que ça corresponde à ce que veut la télévision, à ce que veut tel secteur de la télévision. C'est pitoyable, ça. Et donc ça donne une idée terrifiante de l'esprit des gens. Moi, je pense que pas du tout. Si on s'arrêtait ne serait-ce que 5 minutes, on entendrait des merveilles. Je suis persuadé. De gens qui apparemment n'ont pas le physique de l'emploi, vous voyez. Il suffirait de laisser reposer un peu et faire sortir des gens, enfin de chaque individu, une chose originale, drôle. Même si les gens vivent, comme vous dites, à peu près... C'est une erreur de penser que les gens vivent la même chose. Quand on dit, quand le pouvoir dit, voilà, il faut aider les... Voilà, le pouvoir divise là un peu. C'est le reproche qu'on peut faire, disons, au début du pouvoir, du président actuel, c'est d'avoir cette vue de la société française, une vue, voilà, il y a ceux qui font, ceux qui agissent, et puis il y a les gens vulnérables, les gens fragiles, mais non, pas du tout. Il y a des gens vulnérables, fragiles, qui peuvent dire des choses formidables, du reste, qui sont très utiles à tout le monde. Hein? Et puis il y a toute une énorme série de gens qui sont ni riches ni vulnérables. C'est ceux-là qu'il faut écouter beaucoup aussi. Cette scission de la société entre gens qui font des choses, qui réussissent, et les vulnérables, c'est une erreur. C'est une erreur sociologique. C'est faux. Il y a tout un secteur de population, un secteur d'êtres, d'humains, qui vivent plus ou moins correctement, comme tout le monde. C'est pas nouveau. Hein. Moi, je viens d'un monde, en 40, et après j'ai fait les 30 glorieuses, etc., d'un monde où tout le monde avait du travail. Mais les gens vivaient très chichement. Avec très peu. Avec un salaire assuré, c'est vrai, mais un salaire très 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 médiocre, avec des prix qui étaient bien plus forts qu'aujourd'hui, en plus, les prix des denrées. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est curieux. Je ne suis pas le seul à faire cette remarque. Hein. Les gens qui ont mon âge l'ont souvent dit aux gens qui manifestaient au mois de décembre, au mois de janvier. Donc, enfin, bref, ça, c'est un petit écart politique, de toute façon.
Oui, mais en même
mais
temps...
Il est bon de le savoir, il est bon de le dire.
Et en même temps, cette attention que vous avez à chacun, elle est profonde, et j'ai l'impression que vous la tenez de votre œuvre qui est attentive à toutes les figures, à toutes les créatures.
Vous savez, le premier temps n'est pas forcément favorable. Hein. Moi, j'ai comme tout le monde... Quand je sors dans la rue, je suis très énervé, souvent, quelquefois, vous voyez. Quelquefois, je l'ai souvent dit. Hein. Et après, quand on se reproche, bien entendu, d'avoir eu un mouvement de quelques secondes, un mouvement négatif de quelques secondes. Parce que c'est l'autre. L'autre qui est immédiatement hostile. Et c'est pas la paranoïa, hein. C'est un truc classique, on trouve ça chez les animaux, qui se toisent tout de suite, qui se regardent immédiatement. C'est tout à fait normal. Il suffit simplement de réfléchir quelques secondes. Et tout. Non, la personne que j'ai en face de moi a une vie. Elle a été. Voilà. Surtout, il faut se dire que la personne que vous avez en face de vous a été un enfant. Une enfant. Ça, c'est radical. C'est ce que je dis toujours. Savoir qu'un tel a été un enfant. Donc, en principe, quelque chose de pur, de frais, de spontané. Sans trop d'arrière-pensée, disons. Je dis bien sans trop d'arrière-pensée, encore. Les arrière-pensées, ça vient avec l'adolescence. Ça vient avec la révolte, ça vient avec tout ça. Un enfant est tout entier tel qu'il est, je pense. D'abord, il a intérêt. C'est son intérêt, parce que c'est l'intérêt d'être enfant. Il donne tout, tout de suite. L'adolescent commence à cacher des choses. Et c'est là que l'arrière-pensée se forme, si vous voulez. Même s'il y a des enfants très rusés, etc., ça se voit tout de suite. Donc il faut penser chaque fois que la personne que vous avez en face de vous, que la vieille personne que vous avez en face de vous a été un enfant, etc. Et puis quand vous voyez aussi des adultes ou des jeunes, de penser aussi qu'ils deviendront vieux aussi. C'est très important, ça aussi. Qui vieilliront, qui seront... bref. Qui comprendront beaucoup de choses à ce monde. Peut-être trop de choses, trop. Donc, de toute façon, toutes ces opérations-là font que vous êtes obligé d'accepter l'autre, de toute façon. Il faut imaginer les gens en train de penser, ça c'est capital. En train de penser, en train d'éprouver, de penser. Tout être pense et tout être, l'être le plus humble, le plus apparemment, le plus analphabète pense. Et il pense en mots, on pense en mots, faut oublier. On pense assez peu en images, hein. On pense en mots, je pense. Donc si les gens pensent en mots, c'est qu'ils connaissent les mots, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et connaissant les mots, on peut effectivement, les leur tirer de leur tirer de la bouche, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Pierre Guyotat.